je vous ai dit l'importance d'avoir dans chaque famille un petit point d'icône où on puisse prier, se recueillir, prier en famille. Donc c'est important, ce petit oratoire domestique. Il y a même des familles orthodoxes qui ont une véritable chapelle dans leur maison, une pièce qui est consacrée à la prière, quelques offices un peu ensemble. C'est une très bonne chose aussi. Et donc aujourd'hui, je voudrais, comme en rapport avec le dimanche de la croix que nous célébrons aujourd'hui, vous parler de la croix. Parce que la croix est au fond l'élément essentiel, on pourrait dire, de ces iconostases familiales. C'est au point que dans le monachisme ancien, par exemple dans les villes de Cété et de Nistrie, où des archéologues ont retrouvé récemment des cellules monastiques du 5e siècle, des cellules des terres du désert, assez souvent, ils avaient dans leurs cellules une niche dans le mur vers l'Orient, l'Orient de la prière, et dans cette niche, simplement une croix. Une croix, souvent une croix glorieuse, une croix rayonnante, une croix fleurie, comme emblème de la victoire du Christ. Parce que le crucifix, la croix sur laquelle le Christ est représenté crucifié, qui est une représentation tout à fait légitime, évoque davantage les souffrances du Christ. Encore que toutes les croix anciennes, les croix romanes par exemple, les croix byzantines aussi, arrivent à toujours sentir à travers la souffrance du Christ, comme déjà une sorte de présence de la résurrection. De faire sentir que le Christ n'est pas là comme uniquement souffrant, et qu'à travers sa souffrance resplendit déjà la lumière de la résurrection. Et tous les crucifix anciens, les grandes croix romanes par exemple, font très bien sentir cela. Même chose pour les croix byzantines anciennes. C'est seulement depuis la fin du Moyen-Âge qu'on a de ces croix uniquement douloureuses, uniquement pathétiques, qui ne correspondent pas du tout à une vraie vision théologique et spirituelle du mystère de la croix, du mystère de la rédemption. Mais ces croix dont vous parlez, qu'on retrouve peintes, par exemple, dans ces niches des cellules monastiques anciennes, étaient des croix où le Christ n'est pas représenté. C'est la croix de la résurrection, je dirais pas. Parce que dans la conscience chrétienne, la croix, sans représentation du Christ, est devenue vraiment l'emblème de la victoire du Christ, l'emblème de la résurrection, et aussi l'annonce de la parousie, du retour du Christ, qui sera précédé de l'apparition du signe du Fils de l'homme, qui sera toujours la croix. Mais donc, la croix n'a pas seulement, dans le christianisme, la signification d'un rappel des souffrances du Christ, mais elle est avant tout l'emblème de la victoire. Donc, la croix, cet aspect essentiellement victorieux, triomphal. Et ça a marqué très profondément le christianisme ancien et l'iconographie chrétienne ancienne. Et en particulier dans les milieux syriens, dans le christianisme syrien, le syrien est de langue syriaque, je pense à l'île de Perse par exemple, la croix était, je vous le dirai tout à l'heure, on y reviendra, presque l'unique icône. Vraiment, toutes les essences sur la croix, et sur la croix comme emblème vraiment de la victoire du Christ. Ces églises syriennes, à laquelle appartenait Saint Isaac le Syrien, sont des églises en dehors de l'Empire romain, dont les théologiens ont adhéré plus ou moins au nestorianisme, mais cette église, dont la foi était pour l'ensemble des fidèles et des moines tout à fait intacte, et Saint Isaac le Syrien, qui vivait au 7e siècle, a été l'un des plus grands spirituels orthodoxes. Au moins à tort, on le considère peut-être actuellement comme le plus grand maître spirituel auquel on puisse se référer. Son enseignement est tout à fait remarquable. Et alors justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de cette place de la croix dans notre vie spirituelle, d'après Saint Isaac le Syrien. Et je vais suivre pour ça, je vais vous lire et vous commenter un beau texte qui est de Monseigneur Hilarion Alfeyev. Monseigneur Hilarion Alfeyev est un jeune théologien, qui est très jeune, un jeune théologien russe, le meilleur théologien russe actuellement, qui récemment a été consacré évêque pour servir d'auxiliaire à Mgr Antoine Blum à Londres. Parce que Mgr Antoine Fayette a à la fois une culture universitaire, une connaissance des langues étrangères, qui fait qu'il était très apte à succéder probablement Mgr Antoine Blum et à devenir l'exarque du patriarcat de Moscou en Angleterre, même pour l'Europe occidentale, puisque actuellement le palais de Moscou en France est lié à ce Angleterre. Donc, vous savez, Arnaud Fayette a publié plusieurs très beaux livres, et en particulier un sur l'univers spirituel d'Isaac le Syrien, qui est un exposé très développé de toute la doctrine spirituelle de Saint Isaac le Syrien. C'est un des meilleurs livres pour connaître toute cette tradition spirituelle, donc qui est parfaitement orthodoxe et qui a été intégrée dans la philocalie, dans la grande vision philocalique. Parallèlement, il y a un autre très beau livre qui est apparu sur les grands mystiques syriens, sur l'un des grands mystiques syriens, Jean de Zaliata, qui était peu connu. C'est un livre qui a été écrit par un carme français qui vit à Bagdad, parce que les carmes ont une mission à Bagdad, en Irak, et font énormément là-bas pour aider les chrétiens d'Irak, et qui sont nombreux, à retrouver leurs racines, à retrouver leurs traditions. Ils ont fait un magnifique travail dans ce domaine. Et ce père Belay, donc qui est carme, est un homme qui a lui-même une vie spirituelle très profonde et qui a aussi un très très beau livre sur Jean de Zaliata, qui est un autre maître spirituel syrien qu'on connaissait moins, mais de la même envergure que certainement que Saint Isaac le Syrien. Le Saint Isaac a le privilège d'avoir été traduit en grec très tôt, donc il a été intégré à la tradition spirituelle orthodoxe grecque très très tôt, dès le 8e siècle. Tandis que Jean de Zaliata n'était pas connu. Mais on le découvre depuis quelques années, et on voit que vraiment il y a eu là au 7e, 8e, 9e siècle, en Irak et en Iran, enfin le cœur de cette église c'était l'Irak, ça l'est encore d'ailleurs, ils sont très peu nombreux maintenant, mais un rayonnement, d'abord une vie spirituelle, une intensité extraordinaire, et d'autre part un immense rayonnement, puisque ils ont des missions au Tibet, en Mongolie, jusqu'en Chine, dans une partie de l'Inde, peut-être jusqu'en Indonésie. Certains pensent même que certains missionnaires de cette église sont allés jusqu'au Japon. Que si Saint-François Xavier a pu avoir assez facilement des disciples convertis au christianisme au Japon, c'est parce qu'il prêchait un endroit où le terrain avait déjà été préparé par des missionnaires de cette église de Perse. Et c'est une église qui, en même temps, a toujours eu des martyrs parce que tant que l'Empire perse a duré, jusqu'à ce que la conquête arabe, l'Empire perse n'a jamais été officiellement un empire chrétien. Et au contraire, les empereurs de Perse ont largement persécuté les chrétiens. Il y a une cruauté, d'ailleurs, assez inouïe. Donc c'est une église de martyrs, mais en même temps une église de très grands spirituels. On peut dire que peut-être les plus grands spirituels de la chrétienté, les plus grands mystiques, ont appartenu à cette église. Bon, aujourd'hui, il en reste très peu de choses. C'est une église qui est divisée en deux branches. Il y a une branche qui est rattachée à Rome, qui est une uniate, si vous voulez, mais avec ce souci entre les mains des carmes qui s'en occupent, et certains dominicains aussi, de vraiment de se rattacher aussi authentiquement possible à leurs racines, à cette grande tradition. Elle est assez vivante. Et actuellement, je crois que c'est le premier ministre ou comme ça d'Irak, comment est-ce qu'il s'appelle ? Aziz, là. Oui, et à partir de cette église. Donc, l'un des personnages les plus importants du régime en Irak appartient à cette église, et l'Irak est le seul pays musulman où les chrétiens ont exactement les mêmes droits que les musulmans. Il n'y a là aucune discrimination. Et les chrétiens sont absolument libres, diffusion de la Bible, l'écrit chrétien ne pose aucun problème. Non, mais ils sont peu nombreux. Ils étaient très nombreux autrefois, ces chrétiens, dans le nord de l'Irak. Mais ils ont été exterminés par les Kurdes. Et là où les Kurdes sont aujourd'hui majoritaires, c'est parce que les Kurdes ont absolument opéré avec un génocide des villages chrétiens. Mais il reste quand même un noyau assez relativement important de ces chrétiens maintenant unis à Rome, et puis un petit noyau indépendant de Rome qui continue dans l'ancienne tradition de l'Église de Perse, mais ils sont très peu nombreux et très, très affaiblis théoriquement. Très souvent, Saint-Jean-le-Syrien, dans ses écrits, mentionne le fait de prier et de se prosterner face à la croix ou de baisser celle-ci. Et il parle aussi d'autres signes du respect particulier qu'un chrétien devrait montrer à la croix. Et les allusions fréquentes d'Isaac, de Saint-Isaac le Syrien, à la croix et au crucifix, s'expliquent par la place exceptionnelle occupée par la Sainte Croix dans la chrétienté de langue syriaque. À l'époque de Saint-Isaac le Syrien, l'église d'Orient, c'est une église qui s'intitule l'église d'Orient. C'est la partie la plus orientale de la chrétienté. Et alors le titre qui se donne officiellement, c'est pas du tout église nestorienne, il s'appelle église d'Orient. Donc l'église d'Orient ne possédait pas une tradition importante en matière de peinture d'icônes. Il y avait des icônes, mais pas énormément. Même si plusieurs types d'icônes avaient existé dans cette église, depuis la plus haute antiquité, il y en a toujours eu, le culte de la croix s'était bien davantage développé. L'église d'Orient entourait la Sainte Croix de beaucoup de dévotion et d'une vénération liturgique, comme symbole de la rédemption du genre humain et de la présence invisible de Dieu. La croix était vraiment comme le signe de la présence de Dieu, comme une icône. La présence du Christ ressuscité. Dans ce domaine, l'enseignement de saint Isaac est le plus grand intérêt, car il nous permet d'entrer en contact avec la tradition ancienne de l'Orient syrien et de constater par nous-mêmes l'importance de la croix dans la vie spirituelle des contemporains d'Isaac, une importance qu'elle peut et doit avoir dans notre vie. Et son enseignement donc sur la croix dans ce sens-là se trouve dans un... Il y a tout un chapitre là-dessus qui est intitulé... les titres sont toujours très longs dans ces écrits spirituels anciens. Sur la contemplation du mystère de la croix et sur la force que celle-ci procure invisiblement sous sa forme visible et au sujet des grands mystères du gouvernement de Dieu parmi les anciens et comment ceux-ci ont été récapitulés dans le Christ, notre Seigneur, et comment la croix toute puissante contient tout cela en même temps. Et le père Hilarion commente en disant « Le début du texte contient déjà des indications suffisamment claires sur le caractère universel de la vénération de la croix dans la tradition syriaque. » Et saint Isaac lui-même dit « Quel est le sens et quel est le type de l'image de la croix que la croix nous dépeint? Cette image est tenue en grand honneur chez nous, elle est joyeusement vénérée avec amour et un désir insatiable. » Et l'histoire est connue, nous en est connue répétée, pour ainsi dire, par le différencier. Et dans ce chapitre, donc, il y a des questions, Isaac explique d'abord son intention de traiter de l'activité, de la puissance de Dieu à diverses époques de l'histoire humaine, de la façon dont Dieu, à chaque génération, dépose son nom vénérable, toute sa puissance, dans des objets corporels. Il révèle à travers eux au monde des choses merveilleuses et admirables, accordant par leur intermédiaire de grands bienfaits aux hommes. Et finalement, Isaac traite de la puissance divine qui se trouve dans la croix. Et saint Isaac montre qu'à travers tout l'Ancien Testament, il y a des symboles, des matériels, comme on le verra, l'Arche d'Alliance, le serpent d'airain, qui sont déjà des sorte de révélation de la croix et à travers lesquelles Dieu manifeste sa présence, manifeste sa puissance en faveur de son peuple. Et pour les chrétiens, ce signe matériel à travers lequel va s'exprimer la présence et la puissance de Dieu en faveur des siens, c'est essentiellement la croix. Voici un texte de Isaac. La puissance sans limite de Dieu réside dans la croix, comme elle résidait aussi, de façon incompréhensible, dans l'arche d'alliance, que le peuple juif vénérait avec grand honneur et effroi. Il y accomplissait des miracles et des signes redoutables au milieu de ceux qui ne rougissaient pas de l'invoquer avec le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il la regardait avec effroi, comme s'il voyait Dieu, à cause non vénérée de Dieu qui reposait sur elle. L'arche n'était pas seulement vénérée par les Juifs avec ce nom de Dieu, mais aussi par les peuples étrangers, leurs ennemis. Malheur à nous, c'est dans le livre de Samuel, malheur à nous, car le Dieu de ce peuple est aujourd'hui arrivé à leur camp. Quand les Philistins s'étaient emparés de l'arche de l'Alliance, ils s'étaient emparés en quelque sorte de la présence de Dieu parmi les hommes. Or, quand tu dis Saint Isaac, or nous croyons que la force qui résidait dans l'arche réside aujourd'hui dans la figure vénérée de la croix que nous tenons en grand honneur, pleinement conscients que nous sommes d'y percevoir la présence de Dieu. Et Saint Isaac se demande qu'est-ce qui était présent dans l'arche pour la rendre si effroyable et la remplir de force et opérer par elle des miracles. Il répond que la vénération de l'arche était due à la Shekhinah, c'est-à-dire la présence invisible de Dieu qui l'habitait. Moïse et le peuple se prosternaient-ils pas devant l'arche avec grande crainte et tremblement? Et Josué, fils de Noun, n'est-il pas resté étendu, le visage contre terre devant elle, depuis le matin jusqu'au soir? C'est Saint Isaac fait allusion ici à un passage du livre de Josué. N'est-ce pas en elle que les révélations terrifiantes de Dieu, terrifiantes au sens d'une terreur sacrée, d'une crainte sacrée, n'est-ce pas, étaient manifestées comme pour honorer cet objet en lequel la Shekhinah de Dieu résidait? Or c'est précisément cette même Shekhinah, cette même présence de Dieu, qui réside aujourd'hui dans la Sainte Croix. Elle a quitté l'arche de l'Ancien Testament et est entrée dans la croix du Nouveau Testament. Donc l'arche d'alliance pour Saint Isaac préfigurait ainsi la croix, comme tout l'Ancien Testament préfigurait le Nouveau. Et c'est pour cette raison que les miracles des apôtres, tels que les décrits du Nouveau Testament, étaient plus puissants que ceux accomplis à l'époque de l'Ancien Testament. Saint Isaac écrit: par la force de la croix, beaucoup ont dompté des animaux sauvages, ont agi avec audace face au feu. On cite à Bellefontaine l'exemple de l'ancien père Abel de Bellefontaine, qui est mort maintenant, qui avait arrêté un incendie en y jetant son chapelet avec la croix de son chapelet. Et qui avait arrêté un incendie comme ça. Donc, par la force de la croix, beaucoup ont agi avec audace face au feu, ont marché sur des lacs, ont ressuscité des morts, ont arrêté des fléaux, ont fait jaillir des sources dans un terrain desséché et désert, ont imposé une frontière à la mer, ont commandé à des fleuves puissants de couler à leur suite, ont renversé le cours des eaux. Pourquoi parler de ces choses? Satan lui-même et toute sa tyrannie sont terrorisés par la figure de la croix lorsque nous la peignons à leur rencontre. La croix anéantit aussi la puissance de la mort, ce que aucun des signes de l'Ancien Testament n'était capable de faire. Saint Isaac écrit encore: quant à la mort, qui était autrefois si redoutée par le genre humain, désormais même des femmes et des enfants lui viennent tête. Jadis, elle régnait partout, mais elle est maintenant rendue plus facile, non seulement pour les croyants, mais même pour les païens, puisque la peur qu'elle inspirait auparavant a été beaucoup diminuée. C'est ainsi que l'humanité a moins peur de la mort maintenant que jadis, à cause de la croix, de la victoire du Christ sur la mort par la croix. En d'autres termes, dit-il toujours, la religion de la croix a introduit dans le monde une attitude différente face à la mort qui n'est plus autant redoutée qu'elle le fut avant l'époque chrétienne. Et Isaac, évidemment, fait ici allusion aux martyrs, à tous les martyrs, vrais, femmes, enfants, et leur intrépidité devant la mort. Pensez à Sainte Blandine, à Saint Ponticus, à un martyr de Lyon, dont certains étaient des enfants. Et Saint Isaac revient ensuite aux figures de l'Ancien Testament il souligne beaucoup le fait que la présence divine, ce qu'il appelle la Shekhina, le terme hébreu d'ailleurs, pour désigner la présence divine dans l'arche, que la présence divine accompagne toujours la croix dès le moment où celle-ci est peinte ou confectionnée. Donc c'est une croix peinte, une croix en bois. Il écrit, dès le moment où sa figure est peinte sur un mur ou sur un panneau, qu'elle est confectionnée à partir de l'or, de l'argent, d'un autre métal, ou qu'elle est sculptée dans du bois, sans tarder, elle assume la force divine qui résidait jadis sur l'arche. Il en est rempli, devenant ainsi le lieu de la Shekhina de Dieu, et même davantage que lorsque celle-ci couvrait l'arche. Vous savez d'ailleurs que cette présence de Dieu, la Shekhina, repose avant tout sur le Christ, bien sûr. Mais la croix est comme une présence du Christ parmi nous. Et vous savez, dans le prologue de saint Jean, il y a un passage où il est dit qu'il a habité parmi nous. Le texte latin, saint Jean, habitavit in nobis, qu'on a traduit en français habituellement, il a habité parmi nous. Mais le terme grec, c'est eskénosène. Et saint Jean a simplement voulu jouer un peu sur les mots, et à travers ce mot grec, qui signifie planter sa tente, évoque la Shekhina hébraïque. Ce sont les mêmes consonnes. Et il y a certainement là, de la part de saint Jean, qui connaît admirablement toute la tradition hébraïque, une volonté de jouer un peu sur le mot grec pour montrer que la Shekhina, la présence divine dans le Testament, repose sur le Christ avant tout. Donc, de toute façon, il a habité parmi nous, mais il a planté sa tente parmi nous, il a planté sa demeure, et cette demeure qui est la nouvelle arche d'alliance, qui est le Christ, mais le Christ qui a transmis sa puissance en quelque sorte parmi nous, depuis la résurrection et l'ascension, à la figure de la croix. Par d'autres moyens aussi, les sacrements d'Église, mais spécialement par la figure de la croix. Et ce passage de saint Isaac montre que, selon la foi de l'Église ancienne, dès le moment où une croix était faite ou peinte, celle-ci devient une source de sainteté pour le peuple et le lieu de la présence divine. C'est la raison pour laquelle, dit saint Isaac, chaque fois que nous fixons cette image, nous regardons cette image au moment de la prière, ou que nous la vénérons à cause de l'homme qui nous crucifie sur elle, le Christ, nous recevons la force divine à travers cette image, et nous devenons dignes de secours, de salut et de biens ineffables dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Et tout cela nous vient à travers la croix. Et donc, Saint Isaac insiste sur le fait que beaucoup de signes de l'Ancien Testament préfigurés annonçaient la croix. Le culte de l'Ancien Testament exigeait une attitude religieuse empreinte de crainte vis-à-vis des objets sacrés. Chaque fois que le prêtre entrait dans l'arche, il n'osait pas lever les yeux pour l'inspecter, parce que la Shekhina redoutable de la divinité y était présente. Mais si la figure était déjà aussi vénérable et redoutable, l'archétype lui-même, la croix du Christ, donc l'arche était la figure, l'archétype lui-même, à qui appartiennent tous les symboles et toutes les figures, doit l'être bien davantage. Et dans l'Ancien Testament, la vénération offerte aux objets sacrés était inspirée par la crainte de la punition qui frappait ceux qui manquaient de respect à leur égard. Parce que lors du transfert de l'arche, certains avaient touché, pour empêcher l'arche de traverser parce que les bœufs chancelaient un petit peu de ça, mais ils ont été frappés de mort pour avoir touché l'arche sans précaution. Donc il y avait une sorte de crainte sacrée à l'égard de la présence de Dieu dans l'arche. Dans le Nouveau Testament, au contraire, la grâce a été répandue sans mesure, la sévérité a été engloutie par la bonté, et la liberté de parole de l'homme avec Dieu est née. Or, la liberté de parole de l'homme avec Dieu chasse habituellement la crainte grâce à la bonté abondante de Dieu qui nous est advenue en ce temps. C'est pourquoi, dit Isaac, si nous vénérons aujourd'hui la croix, nous avons pour la croix un respect à la valeur de celui qu'on avait dans l'Ancien Testament pour l'arche, ce n'est pas par peur d'un châtiment, mais par l'amour mêlé de crainte que nous portons au Christ qui nous a rachetés par la croix. En contemplant cette croix, les chrétiens voient le Christ et le Christ ressuscité en personne. Pour les vrais croyants, écrit Isaac, le signe de la croix n'est pas une petite chose, car on croit qu'elle contient tous les autres symboles. Chaque fois qu'il lève les yeux pour la regarder, c'est comme s'il contemplait la face du Christ. C'est pourquoi ils sont pleins de respect à son égard. Voir la croix est chose précieuse et redoutable pour eux, mais en même temps chose tendrement aimée. Chaque fois que nous approchons de la croix, c'est comme si nous nous approchions du corps du Christ. Car c'est bien ainsi que les choses se passent pour nous qui croyons en lui. Bien sûr, tout dépend de notre foi qui anime notre regard. Et en nous approchant de lui, et en fixant sur lui notre regard, sur le champ, nos esprits s'envolent mystiquement vers le ciel. Bien qu'il s'agisse là d'un regard qui ne puisse être, ni être vu, ni être ressenti, notre vision secrète est engloutie à partir de l'honneur rendu à l'humanité du Seigneur au travers de certaines contemplations du mystère de la foi. La vision de la croix nous entraîne une sorte de contemplation qui dépasse les mots, qui n'a pas besoin de s'exprimer en formule, mais de tout le mystère de notre rédemption et de l'amour de Dieu envers nous. Et de cette façon, la croix ayant été figurée dans l'Ancien Testament, notamment par l'Arche d'Alliance, dont elle est devenue maintenant la croix est le vrai lieu de la présence, la croix figure à son tour le royaume eschatologique du Christ à la fin des temps. La croix est comme le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et aussi entre le monde où nous vivons aujourd'hui, le monde présent, et le siècle à venir, le siècle de la résurrection finale, où tous les symboles et les figures matérielles seront abolis. Toute l'économie du Christ, qui a commencé à l'époque de l'Ancien Testament, qui se prolongera jusqu'à la fin du monde, se trouve résumée dans le symbole de la croix. Car, et je cite encore Saint Isaac, car la croix est le vêtement du Christ, tout comme l'humanité du Christ est le vêtement de sa divinité. Aujourd'hui, la croix sert comme une figure en attendant le moment où le véritable prototype sera révélé et que ces choses ne seront plus nécessaires. Car la divinité habite dans l'humanité sans séparation, sans fin et pour toujours. En d'autres mots, sans limite. Pour cette raison, nous regardons vers la croix comme vers le lieu qui est celui de la Shekhina, de la présence du Très-Haut, vers le sanctuaire du Seigneur et vers l'océan des symboles de l'économie divine. Grâce à l'œil de la foi, la figure de la croix nous manifeste le symbole qui appartient aux deux testaments. Elle est en plus le sceau final de l'économie de notre Sauveur. Chaque fois que nous regardons la croix avec un esprit apaisé, les souvenirs de l'ensemble de l'économie de notre Sauveur se rassemblent et se tiennent devant nos yeux intérieurs. Donc comme dans une sorte de contemplation simple, globale, soit en voyant la croix, ça nous rappelle à la fois tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et déjà de pressentir la venue du Christ à la fin des temps. La venue du Christ précédée à la fin des temps de la croix victorieuse. Et ce chapitre de Saint Isaac se termine par une libation de grâce adressée à Dieu, qui nous a donné, n'est-ce pas, ce symbole qui est plus qu'un symbole, qui est la mode de présence de tout le mystère de l'économie divine, de tout le mystère du salut. Béni soit Dieu, qui ne cesse de servir d'objet matériel pour nous attirer de façon symbolique à la connaissance de nature invisible. Il sème et imprime dans notre esprit le souvenir du soin qu'il a déployé pour nous à travers toutes les générations, nous captivant par son amour et par ses richesses grâce à des signes visibles. Que nos cœurs se réjouissent dans les mystères de la foi auxquels nous croyons. Exultons en Dieu qui prend tellement soin de nous. par le regard de notre esprit, entrons dans cette œuvre admirable qu'il a entreprise en notre faveur. Réjouissons-nous dans l'espérance de ce qui nous a été révélé dans les mystères du Nouveau Testament, à nous le troupeau du Christ, et que nous avons reçu par son entremise. Combien ne doit-il pas être adoré, celui qui, pour nous sauver, a tout disposé dans le monde pour nous rapprocher de lui, avant même le temps où se révélait ce qui était préparé pour nous à la fin des temps, et en qui nous avons reçu les biens qui sont dits des fils de Dieu. Combien le symbole de la croix ne doit-il pas être adoré, puisque c'est grâce à lui que tout cela nous a été accordé, et que nous avons été jugés dignes de la connaissance qui est celle des anges, c'est-à-dire grâce à la puissance par laquelle toutes choses, visibles et invisibles, ont été créées. Et l'auteur donc, de ce livre, le père Mgr Hilarion Alpeyev, dit que tout cet enseignement de Saint-Jacques peut se résumer dans les points suivants. La Shekhinah, la présence de Dieu, réside dans la croix depuis qu'elle s'y est transportée à partir de l'Arche de l'Alliance, à partir de la progression de toute la loi ancienne de l'Ancien Testament. L'Arche de l'Alliance était une figure de la croix. La vénération de la croix n'est pas idolâtrie à cause de la présence du Christ en elle. C'est parce que notre adoration s'adresse à lui et non à un objet matériel. La croix est le symbole de toute l'économie, de toute la disposition et le salut de Dieu concernant les hommes. Et la croix est aussi la figure des réalités du siècle à venir où tous les symboles matériels seront abolis. Dans le monde à venir, il n'y aura plus le sacrement, mais nous aurons au contraire à bien découvert toute la richesse, tout le contenu du sacrement et dans toute sa plénitude. Vous savez, on raconte que le curé d'Ars, sur son lit de mort, en tenant la porte de communion avec cette réflexion, « Ah, que c'est triste de communier pour la dernière fois !» Bon, ça se comprend dans la simplicité, mais bon, communier pour la dernière fois, mais ensuite la communion est encore beaucoup plus bien, c'est hier au ciel. Mais oui, et au ciel, il n'y a plus besoin de tous les signes et les sacrements, parce qu'on aura la réalité dans sa plénitude. Et le père Hilarion conclut en disant « Nous voyons ainsi comment, dans la tradition syriaque en général, et plus particulièrement chez saint Isaac, la croix était en fait la plus importante et même presque l'unique peinture sainte devenue l'objet liturgique. Si dans la tradition byzantine, les diverses étapes de l'économie du Christ, comme aussi les divers saints de l'histoire biblique et ecclésiastique, prophètes, apôtres, saints, ont pu s'incarner en divers sujets iconographiques, quand on dit que nous avons des icônes plus variées, cette variété d'images pour le chrétien syriaque était comme remplacée par la seule image de la croix. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'icône, mais beaucoup moins. C'était la croix qui était pour eux l'icône principale. Bon, pour nous, on considérait deux choses, bien sûr, et avoir à la fois des icônes et la croix, bien justement, en étant bien conscient de cette valeur de la croix. Ce n'est pas une icône parmi les autres, simplement, ce n'est pas un objet de décoration, mais la croix est véritablement comme un sacrement. Dans la tradition syriaque, toutes les prières convergeaient, pour ainsi dire, vers un point unique, qui est celui de la croix du Christ. Et Isaïe, dans un autre texte, fait remarquer que, bon, on peut cependant prier sur un contact de la croix. C'est vrai que les chrétiens syriaques pensaient que si on n'est pas, si on n'a pas la croix, on ne peut pas prier. Donc, on peut prier dans tout lieu, en toutes circonstances, mais. D'ailleurs, il nous décrit aussi, Saint Isaïe de Syrien, mais dans un autre texte, ce chapitre dont j'ai vu une partie, là, Saint Isaïe décrit les différentes façons de se tenir devant la croix durant la prière. Parmi celles-ci, il y a la prostration pendant un long moment et en silence. Isaac se souvient de quelqu'un qui resta ainsi prosterné devant la croix, la face contre terre, 3 jours et 3 nuits. Mais comme en extase, ça c'était vraiment une prière inspirée par l'esprit, très forte, et 3 jours et 3 nuits prosterné devant la croix. Et les auteurs chrétiens insistent toujours beaucoup sur le fait que quand le Saint-Esprit s'empare de l'âme, comme ça, et que tout l'être devient prière, saisi par l'Esprit Saint, eh bien, à ce moment-là, ça n'avait plus aucun sens de réciter les prières de règles, de réciter les offices canoniques, qui sont un moyen, qui sont un guide, qui nous conduisent vers la présence de Dieu, vers l'union à Dieu, mais que si cette union se trouve réalisée par une irruption de l'Esprit Saint qui transforme l'homme profond, par une sorte d'extase profonde, il le saisit comme ce moine qui pendant 3 jours est resté prosterné devant la croix, bien à ce moment-là, ça remplit tous les autres obligations en plénitude. On a atteint déjà en partie le but et on n'a plus besoin des moyens. Ça peut nous surprendre quelquefois, même pour les sacrements. Par exemple, un autre auteur syrien de la même école, Yosef Bouchnalia, a écrit une règle pour les moines, que j'ai reproduit dans l'Évangile au désert. Et dans cette règle, il dit une chose qui peut être au premier abord. Les moines, tels que dans l'université qu'il a concevé, s'orientaient tous vers une vie hérétique. Ils avaient quelques années de noviciat en commun, en communauté, et puis une fois bien formés par cette vie commune, ils accédaient d'ailleurs progressivement à une vie plus solitaire, mais dans leur cellule, au sein du monastère lui-même. Un peu comme les chartreux, donc ils avaient des cellules dans le monastère où ils pouvaient vivre vraiment une vie hérétique. Et alors, Saint-Joseph Bouchnalia, ce maître spirituel, donc de la même école que Saint-Isaac, dit que pendant leur noviciat, quand ils vivent vraiment en communauté, eh bien, les novices communieront tous les jours. Normalement, et qu'ils auront la liturgie, communieront tous les jours. Et puis, quand ils commencent à accéder à la vie hérétique, eh bien, ils communieront plus que le dimanche. Ils ne sortiront plus en semaine de leur solitude, ils resteront enclos dans leur ermitage et sortiront le dimanche. Et puis ceux qui sont encore plus avancés, eh bien sortiront encore moins souvent, ne communieront qu'aux grandes fêtes, à certaines occasions. Alors ça peut surprendre beaucoup, et en fait c'est parce que, à mesure que le moine progressait dans la vie spirituelle, que sa vie spirituelle n'est plus seulement une vie active, acquise, comme la force des poignets, mais vraiment passée sous l'emprise du Saint-Esprit, une vie qui devenait vraiment contemplative au sens le plus fort du mot, eh bien à ce moment-là, les sacrements devenaient moins nécessaires et la réception fréquente des sacrements moins utile. Et au contraire, il valait mieux que le moine reste dans sa solitude que de sortir pour assister à la liturgie et communier. Et dans les apophtèques, ces apophtèques nous racontent des anecdotes relatives au cœur du désert, des traits qui datent du 4e ou 5e siècle, il y a même un récit extrêmement curieux qui nous raconte qu'un ermite, comme ça, vivait tout à fait seul dans sa cellule, en plein désert, à une certaine distance, assez loin de l'église la plus proche, et donc restait appuyé dans sa cellule et n'allait pas à la liturgie. Et puis, le diable lui a suggéré. Mais c'est pas bien, ce n'est pas bien, tu dois aller à la liturgie, il faut que dimanche, au moins dimanche, tu sors, tu es à la liturgie, tu ne peux pas rester comme ça en cellule sans communier. Alors finalement, le pauvre moine a cru que cette inspiration venait de Dieu, alors qu'elle venait du diable, ou de la peuple, et il sortit de sa cellule pour aller à la liturgie. Et puis de fil en aiguille, prenant l'habitude de sortir sur le dimanche, et bien, il a rencontré des séculiers, il a bavardé avec eux, etc. Il a rencontré des femmes, et puis finalement, il est rentré dans le monde. Et cette apostèque voulait montrer justement que pour un ermite, eh bien, il peut être préférable de ne pas sortir fréquemment, de ne pas briser sa solitude pour sous prétexte de communier sur davantage sacrement. Il faut dire que dans toute cette tradition, c'est toute une tradition ancienne, l'ermite n'accède à la vie hérétique que celui qui est déjà arrivé, à vivre vraiment sous l'emprise des dons du Saint-Esprit, qui n'est plus au stade d'une vie active, où on lutte, comme bien aidé par la grâce bien sûr, mais comme la force des poignets, mais où vraiment il y a une emprise de l'Esprit Saint sur l'homme. La vraie vie hérétique, c'est ça. Bon, il peut y avoir des moines qui vivent seuls, sans avoir accédé là, mais ils sont toujours très exposés à l'erreur, à l'illusion. Et dans la pensée des anciens, l'ermite, quelqu'un qui n'a plus besoin de règles, qui n'a plus besoin même d'un père spirituel de façon habituelle, parce qu'il est passé vraiment sous l'emprise du Saint-Esprit, sous la conduite intérieure du Saint-Esprit, comme fruit de toute cette lutte, de tout ce combat spirituel qui est d'abord mené en communauté. Tout l'enseignement ancien, c'est que la vie commune est indispensable pour un débutant, mais qu'après un certain nombre d'années, plus ou moins grand, selon la ferveur du moine, eh bien, il arrive un moment, s'il a été fidèle, où il peut se dispenser cette vie commune, et alors là, il sera plus profitable pour lui d'être en solitude. La solitude favorisera vraiment cette vie d'union très profonde avec Dieu, qui est plus difficile en communauté, mais qui est nécessairement préparée par ce renoncement, par tout ce... Comme disait notre Guérondin Emilianos, ce soir, quand les novices arrivent au monastère, ce sont des cubes. Et il faut qu'à force de se frotter les uns aux autres, ils deviennent des boules. Et quand ils sont devenus des boules, les personnes-là, ils sont aptes à la vie solitaire s'ils le veulent. Il faut savoir que tous les angles aient été utilisés pour la vie commune. Oui. Donc, le cas de ce moine qui reste 3 jours, ne s'en procède dans la croix, eh bien, c'est cela. C'est un moine qui est arrivé à un type de vie spirituelle où les différents offices et les grandes prières les plus nécessaires, il est vraiment saisi par Dieu. Et Saint Isaac commence ceci en disant « Le fait que tu sois prosterné devant la croix durant la plus grande partie de la journée, une façon de prier qui contient en elle toutes les prières partielles et l'office lui-même, ne prouve-t-il pas que cette prière-là a mis toutes les règles de la prière sous son pouvoir ?» Prier de cette façon devant la croix, eh bien, ça remplace des autres formes de prière. Si quelqu'un adhère sans cesse à Dieu et se répand en prière, continuellement prosterné par terre en suppliant Dieu, l'âme engloutie par le désir de Dieu, alors qu'il gît ainsi face à la croix, une telle personne n'est plus soumise à quelque loi que ce soit, ni aux prescriptions d'une règle, et étant au moment fixé d'avance, n'ont plus aucun pouvoir sur lui. Car à partir de ce moment, il est plutôt au-delà de la loi, se trouvant avec Dieu sans limite dans le temps. Il y avait au mont Athos un moine d'origine syrienne, le père Isaac, qui avait été disciple de père Païsios. Et père Païsios avait estimé qu'il était apte à mener seul la vie monastique, et donc lui avait permis de vivre dans une cellule isolée, une cellule hérénitique au mont Athos. Je suis allé le voir un jour. Il se trouve qu'à ce moment-là, il devait recevoir un disciple. Il n'était plus seul, mais il avait un jeune disciple qui vivait avec lui depuis quelques jours. Et je demande à Père Isaac, mais quel est votre programme? Comment organiser votre journée? Alors Père Isaac m'a dit, eh bien, avant que je n'aie un disciple avec moi, vous savez, je n'avais pas de programme. Je priais quand j'avais envie de prier, aussi longtemps que j'avais envie de prier. Je travaillais quand j'avais envie de travailler. Je dormais quand j'avais envie de dormir, et je mangeais quand j'avais envie de manger. Tout ceci, non pas par... Bon, il disait ça de façon humoristique, mais ce n'est pas par fantaisie personnelle, mais c'est parce que, justement, sur la tradition ancienne, l'ermite n'a pas de règles. L'ermite suit l'inspiration du Saint-Esprit. Et par conséquent, il n'a pas découpé sa journée en se disant, bon, maintenant c'est prime, je vais travailler ensuite 2 heures, ensuite je dirai tiers et sexe, ensuite je préparerai mon déjeuner et je vais manger, ensuite j'aurai 2 heures de travail, etc. L'ermite vit sous la motion du Saint-Esprit, et c'est de prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures de suite, et bien rien ne l'empêche. Mais alors Père Isaac me disait, mais maintenant j'ai un disciple. Et alors, à cause de lui, ben, je suis obligé d'avoir un programme. Et alors, son disciple, justement, ben, il l'a formé comme ça, en menant une vie commune avec lui, une vie commune dans l'obéissance. Le disciple n'est pas dans un grand monastère de synodique, mais il est indispensable pour commencer une vie monastique d'être au moins en vie commune avec un père spirituel avec qui on vit constamment. Et alors, à ce moment-là, tous les deux, eh bien, ils avaient leur office le matin, ils avaient leur temps de travail, l'heure du déjeuner, etc. Donc il est obligé de reprendre un programme précis comme dans un monastère, à cause de ce disciple. Bon, j'ai rencontré Père Isaac, cette visite de Père Isaac date maintenant, je ne sais pas, de peut-être 10 ou 15 ans, et pas très longtemps après, malheureusement, Père Isaac est mort. Il est mort d'une façon assez triste parce que, ben, il était empoisonné par l'eau. parce que l'eau qui amenait l'eau à son héritage était une canalisation en plomb. Et il était empoisonné par ce plomb. On s'est demandé ce qui lui arrivait, et c'est un empoisonnement par le plomb qui avait qu'il est mort. Son disciple n'a pas été empoisonné, mais il lui avait beau. C'est-à-dire son disciple, devenu maintenant un maître, un moine suffisamment aguerri et mûr, a pris la place et vit seul dans son ermitage. En attendant qu'un ou deux disciples n'arrivent sans doute. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les cellules. Et pour moi, à Tos, il y a deux types de vie essentiellement. Il y a la vie cénobitique dans les grands monastères, alors qui compte entre 30 et 100 moines à peu près, selon les cas. Et puis, il y a la vie des calives, des cabanes hérétiques, où il y a un ancien, et puis qui peut avoir autour de lui de 1 à 5 ou 6 disciples. Quelquefois, ça atteint la douzaine. À ce moment-là, ça devient un petit cénobium. Mais alors, justement, selon la maturité de ses disciples, le programme est plus ou moins exigeant, plus ou moins souple. Et parce qu'il faut que les disciples emmènent une vie commune et soient rodés par la vie commune avant de pouvoir eux-mêmes mener une vie hérétique. Alors, quand le père spirituel meurt, il arrive assez souvent que l'un ou l'autre de ses disciples, ou quelques-uns, vont mener la vie solitaire ailleurs. Mais d'autres voient des disciples se grouper autour d'eux et ça recommence. C'est comme ça d'ailleurs qu'à une époque où dans les grands monastères il n'y avait plus que quelques vieillards et où la vie spirituelle à cause de ça déclinait, dans les ermitages du Mont Athos, surtout du sud du Mont Athos, la plupart souvent le sud, il y avait ces groupements monastiques, des pères spirituels d'une très grande valeur, et c'est de là qu'est parti tout le renouveau. Et aujourd'hui, tous les passages de la Tos sont occupés à peu près par des disciples de ces pères spirituels qui avaient commencé par cette vie hérétique.